J'appelle donc pour le dernier, la dernière restitution, transition numérique et territoire inclusif, Nathalie Bassalaire, Cédric Zabot et enfin Floriane Boulet. Vous êtes là, nous vous attendons. Et je propose aussi que vous démarriez le vote. Donc n'hésitez pas à continuer de voter. Et puis juste après, on pourra restituer et commencer à regarder tous vos votes. Donc on vous remercie.
Donc six propositions sur cet axe en lien avec la transition numérique. Le premier qui rejoint des préoccupations qui ont été évoquées ici, l'idée c'est finalement de travailler plus dans une logique un peu de plateforme entre les différents acteurs qui sont des producteurs de connaissances et des acteurs du territoire, que ce soit pour construire des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisées, mais en allant peut-être un petit peu plus loin, c'est-à-dire en regardant également quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits en matière soit de politique de recrutement, soit de mobilisation de l'offre de formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la problématique de l'emploi et des compétences, mais il faut aller jusqu'au bout, regarder ce qui se fait en termes de recrutement, de mobilité et de disponibilité ou d'adéquation avec l'offre de formation. Deuxième proposition que nous avons retenu pour ce débat, à partir du moment où les TPE, PME représentent, on ne le dit jamais assez, 98% de notre tissu industriel, il est important de pouvoir généraliser sur tous les territoires des programmes de sensibilisation et d'accompagnement de ces petites entreprises, alors à la fois bien évidemment à leur transition numérique, mais aussi, puisque c'est notre problématique, à des pratiques de gestion inclusive, alors que ce soit via de l'alternance ou que ce soit via de la préparation opérationnelle à l'emploi ou d'intégration, en tout cas dans l'emploi, de publics qui sont plus fragiles, mais qui pourraient disposer des compétences utiles pour venir appuyer la transformation numérique de ces petites entreprises. Troisième proposition, il existe des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, dont le métier, si j'ose dire, c'est justement de résoudre des problèmes de recrutement et de travailler en particulier avec tout le potentiel des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. Sans doute vaut-il davantage demain mobiliser ce type de dispositif qui permettent de répondre aux importants enjeux de montée en compétences et de développement de l'employabilité de chacun. Quatrième proposition, mieux répondre, on ne fait pas rien, mais en tout cas on peut mieux répondre aux enjeux de formation et de développement des compétences au niveau local, pour notamment faire de l'industrie 4.0 un levier de réindustrialisation. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on pense toujours que l'emploi industriel est dans les métropoles, mais de mémoire, vous me corrigez, je crois que c'est 70% de l'emploi industriel qui est dans les villes de moins de 200 000, et qu'il y en a 30% dans les communes rurales. Donc, ce qui veut dire qu'on a des gros enjeux d'emploi industriel, et donc là où il y a de l'emploi, il faut mettre des dispositifs d'enseignement et de formation. C'est un peu le message que donne cette proposition, et en disant qu'il faut également pouvoir chaîner les interventions de manière à la fois horizontale, depuis effectivement le repérage des difficultés à l'insertion, etc., mais également de manière verticale, de façon à avoir un spectre de formation, en gros de moins 5, de bac moins 5 à bac plus 5, de façon à couvrir l'ensemble des besoins de ceux qui sont peut-être moins qualifiés et qui doivent rapidement acquérir des compétences, pour ceux qui sont des potentiels et qui viendront alimenter cette industrie 4.0. Cinquième proposition, alors on le sait, il y en a des tiers-lieux. Là, maintenant, récemment, un grand programme qui a été engagé sur les fabriques numériques de territoire. En fait, il faut généraliser le déploiement et sans doute aussi pérenniser le dispositif de financement plutôt que de fonctionner uniquement par appel à manifestation d'intérêt. Si on veut effectivement ancrer dans la durée, eh bien ces fabriques numériques de territoire, périurbains, ruraux, ceux des quartiers politiques de la ville, C'est à la fois un enjeu pour accompagner la montée en compétences numériques, on l'a vu, développer les compétences douces, hein, les fameuses soft skills, pour faire de la reconversion professionnelle ou de l'insertion. Nous, on y a également ajouté les compétences linguistiques, parce que surtout dans le numérique et dans les entreprises, dans les industries du numérique, il y a aussi de formidables opportunités, alors transfrontières ou à l'international, et il faut pouvoir compléter, en tout cas coupler avec des formations de ce type. Ça permet aussi de développer la mobilité géographique. Enfin, la dernière proposition, et je sais que la DCF n'y sera pas insensible, je le disais tout à l'heure en parlant des contrats de relance et de transition écologique, on a là pour une fois un outil qui se veut intégrateur avec un changement de posture de l'État. Est-ce qu'effectivement on ne peut pas aller plus loin dans ces contrats de relance et de transition écologique pour en faire finalement des contrats de relance et de transition numérique et écologique, c'est-à-dire en y incluant effectivement un volet numérique, et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en y mettant des objectifs, hein, pour qu'on ait à la fois un haut niveau d'ambition sur la réalisation de ces deux transitions, mais qu'on ait aussi un haut niveau d'ambition sur l'inclusion dans l'emploi qu'elles doivent nécessairement accompagner. Hein, puisque pour le moment, c'est un outil neuf, mais force est de constater qu'il y a très peu d'emplois dedans et que les ambitions sont assez modestes, à la fois sur la transition écologique, il y a toujours des exceptions, et sur la transition numérique, on sait que par ailleurs, ça dépend de d'autres stratégies. Voilà, Floriane, je vous passe peut-être la parole avant d'écouter nos représentants des territoires ruraux.
Oui, merci pour votre invitation. Donc effectivement, les propositions que vous formulez ici rejoignent un certain nombre de celles que nous soutenons à l'échelle nationale. Si on les reprend pour une petite réaction sur certaines d'entre elles, sur la GPEC territoriale, c'est quelque chose que l'on prône depuis longtemps chez Intercommunalité de France. Nous sommes beaucoup investis sur ce sujet-là avec Territoire d'Industrie, qui est un dispositif qui permet à la fois de faire la passerelle entre élus locaux et chef d'entreprise industrielle sur un territoire, et enfin de faire le lien entre public et privé. Et dans ce cadre-là, on voit très clairement émerger dans certains territoires, je pense à Caussène Agglo ou autres, le besoin d'avoir une GPEC qui soit à la fois publique et privée et qui soit à l'échelle d'un bassin d'emploi. Ça marche extrêmement bien. Ça demande beaucoup de temps et surtout, il faut savoir ce que l'on veut faire de cet outil-là. Mais une fois qu'on a répondu à ces questions-là, ce sont des outils qui fonctionnent. Certes, ça prend du temps, mais ça peut être extrêmement intéressant lorsqu'on est capable de mettre tous les acteurs autour de la table. Donc ça, pour ça, on vous soutiendra également dans cette optique-là. Sur les besoins non satisfaits, les politiques de recrutement, etc., c'est quelque chose qu'on voit se généraliser dans beaucoup de territoires. L'offre de formation aujourd'hui n'est pas forcément au bon endroit, partout. Vous le disiez, 75% de l'emploi industriel est en hors zone métropolitaine, c'est énorme. Or, les lieux de formation sont dans les métropoles. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des lieux de formation qui soient au plus près des territoires? Quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Nous, c'est ce qu'on appelle les académies industrielles. Enfin, grosso modo, c'est la même idée. L'idée est d'avoir non pas que des IUT dans des villes moyennes, mais aussi des structures de formation qui aillent jusqu'au bac plus 5, voire au-delà. Pas forcément des structures universitaires, pas que des antennes universitaires, parce que l'on sait très bien que la machine universitaire est quand même relativement lourde à manier. Or, on a des besoins qui sont quand même relativement urgents. Et dans un certain nombre de territoires, on arrive à avoir des écoles d'ingénieurs ou autres qui arrivent à créer des antennes de façon certainement plus souple. La démarche avance. Dans le cadre de France 2030, on a aujourd'hui une ministre de l'enseignement supérieur qui est à l'écoute sur ces sujets-là, un premier ministre surtout qui est assez attentif à ces enjeux. Donc, on travaille à ces questions. sur les groupements d'employeurs pour les personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, bien évidemment, la généralisation, nous soutenons cela. Généraliser les tiers-lieux, oui, bien sûr. Il faut savoir ce que l'on met dans ces tiers-lieux. Aujourd'hui, on a quand même une question autour de cette notion de tiers-lieu qui veut dire beaucoup de choses différentes d'un territoire à l'autre. Qu'est-ce qu'on met exactement dedans? Je pense que c'est ça aussi qui fait peur à l'État et que la logique d'appel à projet permet aussi de sélectionner. Mais en tout cas, ça permet aussi de revitaliser certains territoires et ça a une véritable utilité sociale. Donc nous, on travaille avec France Tiers-Lieux depuis les origines du sujet. Et bien évidemment, il y a une nécessité d'accompagner tout ça. C'est comme pour la formation, en fait. La formation en soi n'est pas une fin. Et il faut surtout l'accompagner. C'est des questions de mobilité, de logement, etc. qu'il y a derrière. Donc, en fait, c'est toute une politique auquel les collectivités locales peuvent être associées. La formation en tant que telle n'est pas suffisante. On le voit bien quand une école s'implante dans un territoire. Il y a tout un environnement à associer. Et peut-être un dernier point, j'imagine qu'il ne faut pas que je sois trop longue, sur les CRTE. Ça sera très bien. Et la volonté d'avoir des contrats intégrateurs. Nous, ça fait une dizaine d'années que l'on plaide en ce sens-là. Donc, on est plutôt satisfait de l'ambition portée par le Premier ministre sur ce sujet. Reste que du concept à la réalité, il y a quand même un gap. On a une première étape et on a des élus qui portent le sujet. Chez nous, c'est extrêmement visible. Autant il y a encore un an et demi, il fallait encore convaincre un certain nombre de présidents d'intercommunalité. Aujourd'hui, cette idée d'avoir des contrats interministériels est portée par beaucoup de présidents d'intercommunalité. Donc, d'associer justement autour d'une même table le ministère du Logement, le ministère de l'Enseignement supérieur, etc., ça peut donner des choses extrêmement intéressantes. Ça prendra du temps, c'est évident, mais dans certains territoires où il y a des résultats assez intéressants, c'est plutôt encourageant. On n'en est pas à des résultats encourageants France entière, c'est vrai, mais il y a des choses qui peuvent être extrêmement riches. Et sur l'emploi, ce qui nous embête, c'est que nous sommes en fin de mandat, parce que pour le coup, Elisabeth Borne porte un vrai message sur la place de l'emploi dans les CRTE. Elle est intervenue dans un des webinaires qu'on avait organisé sur le sujet, justement pour remettre l'emploi au cœur de tout un tas d'autres politiques publiques. C'est compliqué parce qu'en fait, ça nécessite un changement de culture aussi dans les administrations déconcentrées, finalement, et de ne pas être uniquement en silo. Et c'est là-dessus que l'on bute beaucoup, et sur la pluriannualité budgétaire. J'imagine que Cédric n'en dira pas. Aujourd'hui, on a des CDRTE qui sont annuels, donc avec des engagements de l'État ministère par ministère annuel, donc la machine est quand même assez lourde et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, à la fois sur la transversalité mais aussi sur les engagements pluriannuels. Sur ces questions de formation, d'emploi, etc., non seulement il y a une diversité d'acteurs à mettre autour de la table qui est très importante, mais en plus de ça, il faut des financements qui soient à la hauteur des enjeux. Et quand on parle de transition numérique, c'est évident qu'il faut quelques subsides. Voilà.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais commencer par la bonne formule. Le plus important, faites attention parce que j'en ai plusieurs. Mais le plus important, c'est le récit. Tout ce que vous nous donnez là depuis un petit moment et qui est le fruit d'un travail important, donc qui est extrêmement respectable et parce que c'est précieux comme intelligence mobilisée tout au long de ces longues heures d'échange. C'est au service d'un récit. Et aujourd'hui, ce récit, on le sait tous, il faut le réenchanter. Dans la relation, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, dans la question de l'interdépendance entre les territoires, et que nos habitants des villes ou des campagnes, ils interagissent, ils s'affranchissent des limites administratives, ils s'affranchissent parfois des règles, parfois les élus le savent que trop, mais Ce qui est important, c'est de travailler sur la question, par exemple, pour les territoires ruraux, de leur parler d'autre chose que la question de l'abandon. Et donc, la question de l'interdépendance, la question, tout ce, par exemple, si je prends la proposition sur les groupements d'employeurs, très bien, mais tout ça renvoie pour nous à l'importance d'avoir une logique, une prospective et une perspective du nouveau rôle que va prendre l'ensemble de l'espace rural dans ses interactions sur la question de la transition numérique. On va enfin avoir d'ici quelques années un niveau à peu près équivalent en termes d'infrastructures dans les territoires ruraux, même s'il y a toujours des écarts et parfois même qui grandissent. Mais on aura d'ici quelques années enfin du très haut débit et de la téléphonie d'à peu près qualité. Et sur la question de la transition, c'est pas à vous que je vais apprendre, vous êtes tous des experts de ces sujets-là, que la question de l'équilibre territorial, ça va passer par des révolutions. La ville évoquait les éléments qui vont être annoncés une nouvelle fois pour nous dire qu'on est tous nuls, qu'il va falloir qu'on fasse autrement. Et c'est là où il faut qu'on regarde comment est-ce que ces territoires-là, avec les compétences qui sont présentes mais qui ne sont pas assez révélées, et c'est là où je dis faites attention à tous ces outils-là, de savoir s'ils sont réellement accessibles ou applicables. C'est-à-dire que le prescripteur doit aussi se poser la question. On a toujours chez nous l'habitude de parler plutôt du premier kilomètre que du dernier. Hein, laissons aux logisticiens cette formule. Le premier kilomètre, c'est ce qui se passe autour de la personne, du jeune, du moins jeune. Vous avez, vos travaux parlent beaucoup de l'action de l'emploi. Il y a tout ce qu'il y a avant et il y a tout ce qu'il y a après. Je veux insister aussi dans le monde rural. Ce monde rural, il est aussi riche comme le monde urbain, mais peut-être en densité plus importante, de toute la question de l'engagement bénévole. Et je mets dedans, évidemment, tout à l'heure, quelqu'un parlait des 500 000. Il se trouve qu'il y a 500 000 élus en France. Je trouve qu'on ne se nourrit pas assez de leurs compétences et de leurs connaissances pour appréhender tous les enjeux que vous avez évoqués. Hein, que ce soit sur la question des besoins en termes d'emploi. On sait tous dans le monde rural qu'on manque de médecins, mais pas que de médecins. On manque d'ingénieurs territoriaux pour les collectivités ou les outils intercommunaux, on manque de compétences sur le numérique aussi. Il faut offrir une autre perspective. Et donc, le plus important, c'est vraiment de se poser la question en termes d'aménagement du territoire, d'aménagement équilibré du territoire, et de revisiter l'ensemble des outils là, que vous avez évoqués en rapport avec ces sujets-là. Et ça suppose pour nous, de manière assez simple, de changer de regard sur le monde rural, et de son interdépendance avec le monde urbain. Sur les transitions, on a des belles lumières aujourd'hui. Si elles n'étaient pas produites à la campagne, on ne pourrait pas s'éclairer. Et ce soir, on va tous manger des choses qui, pour partie, viennent de nos territoires. Donc, cette question-là n'est, à nos yeux, pas encore assez mise à l'agenda politique, pour dire les choses comme ça. Et si on veut parler d'inclusion, il faut aussi parler, d'inclusion réciproque, parce que quelqu'un qui est éloigné, on a employé tout à l'heure à plusieurs reprises la question des personnes éloignées, mais pour un rural, c'est le formateur qui est éloigné, hein, c'est l'entreprise qui est peut-être éloignée. Et donc, il faut aussi inverser la manière de regarder pour pouvoir traiter les choses de manière peut-être plus optimiste et plus dynamique dans l'idée de pouvoir trouver des solutions à des situations, à des contextes qu'on peut tous juger parfois un peu figés. On annonçait des choses là pour le début de semaine, j'en annonce aussi une dans laquelle ma collègue est aussi associée, je crois. On travaille avec les autres associations ou de collectivités ou de groupements de collectivités sur une alliance sur la question de la place du numérique dans la société, comme ce que tout le monde sait ici, mais qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que ça reste et que ça doit rester un outil. Et c'est une expression qu'on connaît bien à la campagne, c'est que l'État, mais ce n'est pas le seul, on a un peu mis la charrue avant les bœufs, et en ayant une injonction sur le numérique pour accéder à l'emploi, pour accéder à les interactions aujourd'hui avec un demandeur d'emploi rural, c'est la dématérialisation forcée. Et c'est pas efficace, on le sait. Et donc, à partir de là, il faut aussi se reposer ces questions-là de la manière dont on peut travailler la question de l'employabilité, qui est un terme qu'on a tous en tête, aussi au regard des capacités des structures, des entreprises à se transformer pour bien prendre en compte l'ensemble des habitants où qu'ils habitent et quelles que soient leurs compétences, On sait bien qu'à compétence égale, la question, ça a été dit par Floriane, sur la question des jeunes, par exemple, l'accessibilité à la formation, à l'enseignement supérieur, on sait qu'il y a des limites, mais qui ne sont pas que des limites intégrées dans le lexis et l'habitus de l'individu, c'est aussi des choses qui sont intégrées dans la mécanique aujourd'hui du secteur de l'emploi et qui nous paraît aujourd'hui largement, non pas disqualifiée, mais insuffisamment adaptée aux réalités des territoires dans leur globalité.
Merci. Merci à vous. Et je propose qu'on regarde les votes. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Allons-y. Les votes sur, justement, transition numérique et territoire inclusif. Je te laisse la parole, Nathalie.
Oui, bon, on voit que les quelques votants 2, 4, 6, sachant que les votes resteront ouverts pendant encore pas mal de temps, mais en tout cas, les 6 premiers votants sont tout à fait d'accord. Avec l'ensemble des propositions qui ont été formulées sur ce sujet. Il y a quelques réserves qui seraient intéressantes pour un votant qui doit être a priori le même, de savoir ce qu'il a plus particulièrement en tête. Voilà. Et après, bon, effectivement, il y a des outils qui sont un peu plus techniques, donc je peux comprendre qu'il y ait du blanc. Le blanc, ça veut dire je ne sais pas. Et sur un outil, en plus de ça, nouveau, ce n'est pas évident.
Est-ce que Madame Boulet ou Monsieur Zabot souhaiteraient compléter, réagir? On voit quand même qu'il y en a la deuxième qui se détache un tout petit peu. Envie de commenter?
Je vais dire un mot sur les fabriques de numérique. Pour moi, elle était un peu contradictoire avec la sixième parce qu'il était dit qu'il fallait des dotations variables selon en gros l'exemplarité. Alors, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est une problématique d'aménagement du territoire et qu'il y a des territoires qui sont en fragilité aujourd'hui. Ils ne seront peut-être pas forcément les meilleurs sur ces mécanismes-là, mais qu'il faut peut-être plus aider. Et donc, à partir de là, la question de l'indexation des dotations, elle n'est pas tant sur l'exemplarité que sur la nécessité de couvrir le territoire dans sa globalité et pas simplement d'aller aider ceux qui sont déjà le plus aidés, qui est un sujet qu'on connaît bien dans l'univers des collectivités ou des outils intercommunaux. Et donc voilà. Et ensuite, je rejoins sur la question de la fabrique numérique. Oui, pourquoi pas, mais encore une fois, ça résout pas la question de comment on y arrive et avec cette problématique de la densification d'acteurs. Et donc, autrement dit, il faut que nous, territoires ruraux, travaillions davantage avec le monde urbain sur la question de l'attractivité en termes d'emploi. Aujourd'hui, il y a plein de filières. Moi, ça, c'est une vraie source de bonheur aujourd'hui dans notre association, c'est de voir arriver plein de jeunes, d'ingénieurs, de former des filières sur le développement durable, sur la transition, dire on a envie de travailler pour ces territoires-là, comment on fait? Et aujourd'hui, c'est une question de médiation, finalement. C'est un bel enjeu aussi pour la suite.
Peut-être juste pour rebondir ce que vient de dire Cédric Zabot sur le fait qu'on aide souvent les territoires qui sont les plus en avance sur la transition numérique, c'est très vrai parce que souvent c'est des sujets qui sont considérés comme techniques et donc en fait la technique appelle le besoin d'encore plus de techniques et c'est ceux-là qui répondent en priorité aux appels à projets qui peuvent être lancés, etc. Et c'est pour ça que la technique des appels à projets, ce n'est pas forcément notre tasse de thé, parce que finalement, c'est assez contre-productif. Et sur ces enjeux-là, il y aurait un vrai besoin de prise en compte des territoires qui ne sont pas forcément en pointe et qui auraient besoin de monter en compétences. Et c'est très difficile de les identifier parce que sur le numérique, comme on est sur des techniques, il faut avoir des interlocuteurs locaux qui soient capables de faire la passerelle. Et c'est compliqué. On le voit très clairement sur la partie économique. Aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes territoires qui ont répondu. On a cartographié les résultats de France Relance et les différents appels à projets, notamment sur la partie numérique. Et en fait, très clairement, ce sont toujours les mêmes territoires qui récupèrent les fonds les plus importants. Donc, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Or, la transition numérique, elle est censée concerner tout le monde.
Merci beaucoup. Je vous propose donc de rejoindre la scène et de public et de représenter les autres résultats de vote. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors, effectivement, donc sur transition écologique inclusive, Alors, beaucoup de propositions. On en voit deux qui se détachent. Développer les méthodes et les outils permettant de documenter les opportunités d'activité et d'emploi, ainsi qu'accélérer la transition sociale et écologique par les coopérations urbaines et rurales, créatrices d'emplois. Est-ce que quelqu'un dans le public souhaite commenter? Parce que je vois aussi du rouge. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Sinon, on avance. Parce que globalement, voilà, c'est assez vert. On va dire que c'est la dernière qui est un peu, qui n'a pas beaucoup retenu votre attention. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite commenter? Peut-être des personnes de la table, Monsieur Fradin.
Oui, ben surtout sur la dernière, effectivement, puisque l'enjeu, évidemment, c'est quoi? J'imagine que la question dans la réponse, mais je me suis fait la même chose, la même réponse. Il faut faire attention, effectivement, à pas supprimer un revenu pour des personnes qui seraient en difficulté. Et puis, puisque là, on dit que c'est un revenu sur la transition écologique, donc je pense qu'il y a une ambiguïté là-dessus, qu'elle est bien sûr sur la transition écologique inclusive et qu'elle doit absolument exclure personne de ce point de vue-là. C'est plus dans les conditions de l'opérationnalité et de, mais c'est pas forcément dans la personne quoi, la personne va s'impliquer, mais ce qu'on peut imaginer c'est par exemple que effectivement toutes les aides sociales, tout ce qui va ensemble, puis tout ce qui va dans ce domaine-là puisse relever de la transition écologique, mais la personne c'est avant tout un revenu, donc voilà, je pense qu'il y a à préciser si on veut rester dans cette proposition.
Et je rappelle que jaune ça veut dire juste je suis mitigé, donc on va dire que il y a juste un ajustement à faire. Je propose qu'on avance et qu'on regarde sur le deuxième vote qui était investissement social et transition numérique. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, effectivement, la première sur la réinventer et généraliser les VAE sort largement du lot et c'est celle qui vous interpelle au maximum. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, quelqu'un peut-être de cette restitution, de ce débat, ou une personne du public qui souhaite poser une question? Bon, bah les votants, pas d'avis, pas envie de partager vos notes. On va donc avancer. Effectivement, on avance sur compétences d'avenir, les résultats du vote. Peut-être que justement une personne de cette équipe de débat de restitution a envie de prendre la parole, ou une personne du public, sachant que là on est plutôt sur quelque chose d'un peu homogène, à part permettre à tous les professionnels de l'éducation de comprendre et partager les enjeux de l'IA, qui a l'air pas trop prioritaire entre guillemets. Donc vous êtes d'accord, mais vous controversé, voilà, exactement, Nathalie, on peut utiliser plutôt ce mot controversé, mais globalement, on est sur des propositions. Alors, je crois que Mathias veut parler.
Oui, ce qui ressort quand même, c'est un degré beaucoup plus important d'adhésion aux propositions sur la petite enfance, alors que manifestement, le sujet de l'IA à l'école pose plus question. Et du coup, ça plaide pour qu'on en fasse un sujet du débat public. Il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet de l'IA et du coup, il faut qu'on en parle. Voilà, c'est ce que ça prouve, ces éléments-là. En revanche, très fort soutien sur la petite enfance. Tant mieux.
Tant mieux. Et donc, merci pour votre adhésion massive. On va peut-être continuer. Merci beaucoup. Transition et entreprise inclusive. Donc oui, on est sur une autre matrice où là, je suis plus perdue. Donc, plus compliqué pour moi d'expliquer, mais on va dire que je pense, en comptant les casques, on est plutôt sur des belles homogénéités aussi. Il y a typiquement, on va dire que créer un index de contribution, ben, globalement, tout le monde est d'accord, hein, on est sur du vert. Mais pas du tout de jaune, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Et pareil, sur la dernière, mutualiser les travaux au PMQ au sein des OPCO, pardon, aussi, et plutôt bonne avec du je ne sais pas pour le blanc, pour rappeler ce que signifie le blanc. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour cette restitution?
Ce sont les participants.
voter le plus souvent favorablement, donc vous serez tout à fait d'accord, vous serez plutôt d'accord. Et de l'autre côté, ce sont les participants qui ont plutôt soit été en désaccord, soit en l'occurrence, il y a beaucoup de blancs, donc n'ont pas su s'exprimer, ce qui est en soi aussi intéressant. Et donc, on voit bien quand même qu'il y a des sujets autour du bonus malus et de l'index quand même qui sont pas complètement partagés.
Voilà, donc on a vu les chiffres et je vous remercie tous pour avoir voté, joué le jeu. Et voilà, donc ces restitutions seront bien sûr dans le résumé, le compte rendu. Je propose à Mathias Dufour de me rejoindre ainsi que monsieur de Margerie.